Bonjour à tous et bienvenue. Merci à la librairie Mola de nous accueillir. Avec la librairie, l'ACF a un compagnonnage depuis quelques années avec ce séminaire des échanges. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Sidon pour la deuxième conférence de ce séminaire des échanges. Pierre Sidon est psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Et il est aussi directeur d'une institution d'addictologie. C'est aussi à ce titre qu'il va nous parler comme ayant une responsabilité dans la cité. À la table, pour discuter, Pénélope Fay, qui est psychologue, membre de l'Association de la cause freudienne et directrice de son bureau de ville à Bordeaux. Nous avons aussi proposé à Philippe Lacadet d'intervenir à partir d'un texte qu'il a écrit, dont il nous parlera. Enfin, Pierre y fait référence, nous verrons. Philippe Lacadet, qui est psychiatre, psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne. La psychanalyse est-elle politique ? Quand la clinique, c'est la politique. La psychanalyse et la politique, tout contre. Pierre, je te passe la parole.
Merci. Merci de votre accueil. Donc, en effet, dans son article à paraître, et qu'il a eu la gentillesse de me faire passer, Philippe Lacadet donne un exemple qui a valeur, me semble-t-il, de démonstration sur le cas particulier de l'écrivain Stefan Zweig. Et il me semble qu'il s'agit de l'exemple du destin funeste, à quoi peut conduire, individuellement et collectivement, un humanisme qui, dans certaines circonstances, se contenterait de n'être qu'intellectuel. Jacques Alain Miller rappelait jadis dans son cours que la psychanalyse a pour particularité d'être la seule discipline intellectuelle issue et adossée à une praxis. Ce pourquoi elle a partie liée avec l'acte. Et ce, même si c'est une pratique de parole, et d'ailleurs qui met au principe de son action une certaine suspension de l'acte au profit de la mise en action de la machine à dire. Dire du côté de l'analysant, acte du côté de l'analyste. Longtemps resté cantonné à l'expérience analytique proprement dite, l'acte analytique a pourtant modifié en profondeur la société. Ma question, celle que je me suis posée, que je voulais me poser devant vous, c'est: est-ce que les analystes doivent et peuvent continuer sur ce même mode de discrétion et une certaine modestie aujourd'hui? J'ai modifié un petit peu le cours des paragraphes. Donc, je me pose d'abord la question des origines de cette question. Donc, dans son texte des autres écrits datés de 1947, La psychiatrie anglaise et la guerre, Lacan incitait déjà les psychiatres à intervenir avec les outils de la psychanalyse dans ce que Freud a appelé le malaise dans la civilisation. Donc on est au sortir de la guerre et il incite les cliniciens, à l'époque c'était surtout des médecins, à sortir du périmètre d'exercice natif de leur discipline, l'hôpital donc. Il les pousse à s'extraterritorialiser pour intervenir dans le débat public. Pourquoi ? Pour influer, dit-il, sur l'hygiène mentale. C'est un syntagme de l'époque. Lacan nous dit, serait de son ressort, le psychiatre, tout ce qui, dans les conditions de subsistance et les rapports sociaux d'une telle population, peut être reconnu pour influer sur son hygiène mentale. Peut-on en effet ergoter encore sur la psychogénèse des troubles mentaux quand la statistique, une fois de plus, a manifesté l'étonnant phénomène de la réduction avec la guerre des cas de maladies mentales, tant dans le civil qu'à l'armée. Avec ce texte, Lacan nous introduit directement dans un contexte qui est celui de l'espoir d'immédiate après-guerre, à la place nouvelle du psychanalyste dans la société à venir. Il se livre à un diagnostic de l'état de peuple protagoniste de la guerre, le français et l'anglais, et en tire des conséquences pour l'avenir. Qu'est-ce qui lui permet donc de passer d'une discipline dont la naissance se fait dans l'intime, le privé, à des conséquences sociales, sociétales même? C'est d'abord sa théorie, soutenue depuis sa thèse, et selon laquelle, comme nous indique Éric Laurent, la psychose est une pathologie du lien social. Le délire d'interprétation est un délire de palier, de la rue, du forum. C'est la conception qui l'a mené vers la psychanalyse à partir de la psychiatrie, et il s'adresse en 1947 aux psychiatres en leur assignant une mission, celle du palier, de la rue et du forum. Et Lacan n'aura de cesse dans tout son enseignement d'affirmer que le collectif n'est rien d'autre que le sujet de l'individuel. Jacques-Alain Miller a repris cette question à partir de sa fameuse théorie de l'école de psychanalyse, qu'il a énoncée à Turin en 2000. Les fonctions au niveau du collectif sont les mêmes, dit-il, que celles qui se déploient dans la vie d'un sujet. Moi, idéal du moi, identification, etc. Donc cette incitation à devenir responsable à un niveau collectif poussait à un élargissement nécessaire de l'assise professionnelle initiale, à la nécessité donc, par exemple, de collaborer avec les psychologues hors des murs de l'hôpital. Ce qui n'allait pas de soi en 1947. Il n'y avait pas de psychologue. Mais... Aujourd'hui, on est poussé à se poser la question de l'extension de cette collaboration. Déjà parce que la masse des travailleurs de la santé mentale a beaucoup grandi. Et donc, de fait, la pratique s'étend à des cercles qui n'étaient pas présents au moment où Lacan s'exprimait. Alors, est-ce qu'il y a des limites à cette extension, et notamment jusqu'où le psychanalyste intervient-il légitimement? On a vu que ces dernières années, des initiatives sont venues de notre école, dans le débat sociétal, et aujourd'hui, depuis quelques mois, dans la politique elle-même. Donc la question, je n'avais pas prévu qu'elle se poserait avec autant d'acuité quand j'ai choisi cette thématique, qui du coup devient très intimidante, mais à la fois on a eu aussi le renforcement de l'assise sur laquelle on peut poser ces questions-là par les initiatives de membres de l'école de la cause freudienne dans le cadre des élections présidentielles, de l'élection présidentielle. Alors, au fond, cette question de l'intervention de la psychanalyse en dehors de son cadre nascendi se mesure aussi dans l'évolution de la société qui a inclus, depuis Saint-Just, la question du bonheur dans la politique. Et puis, aujourd'hui, non plus seulement le bonheur, mais la jouissance. On l'a vu dans la question du mariage pour tous. Ce concept de jouissance, qui est un concept lacanien, aujourd'hui, fait partie des préoccupations du politique, ce qui n'était pas le cas jadis. Je cite encore Jacques-Alain Miller, « La jouissance est devenue un facteur de la politique. La psychanalyse va-t-elle, doit-elle conserver la même distance volontiers sarcastique à l'endroit de la politique qu'à l'âge des idéologies ? Je crois qu'elle ne le pourra pas. Le privé devient public. » Ça, c'est le point, me semble-t-il, essentiel. C'est là un très vaste mouvement, un destin de la modernité, et la psychanalyse y est entraînée pour le meilleur et pour le pire. La psychanalyse y est entraînée, mais pas forcément les psychanalystes. Comme on l'a constaté à l'occasion du débat sur la question du mariage pour tous, la psychanalyse a été comme refendue en son sein par l'émergence d'une question touchant aux mœurs, et des partisans de la tradition se sont trouvés au sein de son corps pour s'élever et prendre position au nom du nom du père, comme on dit, c'est-à-dire défendre une conception qui peut-être n'était pas au niveau de ce que la psychanalyse peut nous permettre d'avancer. Et Jacques Alain Miller évoquait à cette occasion que les psychanalystes sont parfois en décalage, voire en retard sur la psychanalyse elle-même. Alors, de plus, il y a cette situation particulière des psychanalystes que Lacan a mise sous le terme de ségrégation, une espèce d'auto-ségrégation du corps des psychanalystes, dont Lacan a parlé en 1965, en tant que ségrégation scientifique où la communauté psychanalyste se soutient. Alors, c'est une ségrégation qui a eu certains avantages, qui a notamment protégé les analystes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais, au fond, Jacques Alain Miller commentait cette situation d'auto-ségrégation d'une manière critique, en nous disant que, évidemment, une expérience ineffable a nécessairement, concernant ses servants, un effet de ségrégation. C'est un effet que l'on constate chez les psychanalystes. Mais, ajoutait-il, on constate même qu'ils ont tellement pris l'habitude de cette ségrégation qu'ils se sont mis à l'aimer. Ils croient même devoir la défendre comme le plus précieux. Alors, j'ai trouvé récemment dans un billet de blog qui a été diffusé sur Twitter il y a 2 jours, le 4 mai, un psychanalyste qui a écrit sur Mediapart un article pour critiquer la mobilisation, l'appel des psychanalystes lancé par Christiane Alberti et Jacques Alain Miller. Et donc son billet s'appelle « Appel d'un psychanalyste ». Cet analyste s'appelle Jean-Marie Quéré et j'ai trouvé que c'était un exemple qui m'a inspiré sur justement la problématique d'autoségrégation extrême dont peuvent se caractériser certaines positions psychanalytiques dans la société. Donc cet analyste fait le constat de l'impuissance de la psychanalyse dans une époque qu'il qualifie globalement par le néolibéralisme. Il dit « Nous ne savons plus quoi penser, nous ne savons plus quoi dire et nous ne savons plus quoi faire. À cet endroit, la psychanalyste, c'est un lapsus qu'elle a mis, au lieu de dire la psychanalyse, il dit la psychanalyste, il a écrit, et tant d'autres disciplines humanistes, avec la complicité d'un pouvoir abusif, sont rendues à l'impuissance la plus totale. » Donc, dimension très, sinon dépressive, du moins défaitiste, concernant les disciplines humanistes, psych, et en particulier la psychanalyse, qu'il personnalise au point de l'appeler la psychanalyste. Sa vision, j'ai trouvé qu'on n'y lisait pas beaucoup la place de la responsabilité d'un sujet qui serait responsable de sa position et capable d'agir. J'ai senti qu'il y avait une souffrance dans sa conception, un sujet qui était considéré comme écrasé, rendu à l'impuissance la plus totale, le pouvoir abusif. Enfin, on entendait résonner un autre politique très puissant dans son écrit, qui m'a évoqué les appareils idéologiques d'État d'Althusser, d'ailleurs. Et puis, en même temps, une dénonciation, Quéré dit, écrit, « Ainsi se fait le constat du déficit du politique, qui s'est approprié la parole plutôt que de la donner. » Bon, comme si on ne pouvait pas la prendre, d'une certaine manière. En tout cas, lui se refuse à la prendre. C'est sur ce fond de conception donc pétrifiée du sujet que cet analyste se désolidarise. Enfin, il a cru qu'il était solidarisé parce que notre appel s'appelait « Appel des psychanalystes » et il a voulu s'en excepter. Et donc, il a mis en cause l'appel des psychanalystes sur la base de cette vision écrasée qu'il a, peut-être même de lui-même, en tout cas du sujet en général, de ses patients. Alors, c'est peut-être un cas particulier, mais j'ai trouvé que c'était intéressant à étudier parce que, au fond, je trouvais qu'il s'identifiait beaucoup à un sujet marionnette du discours contemporain, quelque chose comme ça. Et alors, du coup, il a une lecture de l'affiche du forum d'hier soir à Paris. C'est l'affiche qui met en scène, je ne peux pas la citer parce que la campagne est terminée, mais une candidate à l'élection présidentielle, en fond, avec inscrit par-dessus « non à l'abstention ». Et il lit cette affiche de but en blanc, au début de son article, comme un appel à voter pour cette candidate. Bon, je trouvais qu'il y avait comme une, comme ça, une réversion imaginaire en miroir. Et au fond, ça m'avait fait penser à la conception lacanienne. Vous savez, dans les premiers séminaires, on a l'axe de la parole et l'axe imaginaire qui se croisent. Et je me suis dit, au fond, pas étonnant que le miroir ait autant d'importance dans sa conception si sa conception du sujet est un sujet écrasé par le grand autre. Vous voyez à quoi je fais référence dans ce schéma où les deux axes se croisent. Alors, je suis allé lire un petit peu plus loin parce qu'il se trouve que ce collègue a un blog. Et j'ai trouvé un texte, notamment, dans lequel il parle de la douleur. Et il écrit que la référence absolue du psychanalyste est la position du nouveau-né, du tout-petit, celui de l'enfance, la période où l'enfant n'a pas accès au langage verbal, à l'usage des mots pour se faire entendre et comprendre. La psychanalyse, dit-il, n'est pas une discipline pour illuminer en mal de sexualité, plus ou moins épanouie. Bon. Si le psychanalyste ne traite pas la douleur, il traite de la douleur, c'est-à-dire qu'il s'attache à entendre et à ce que soit entendu, ce qui n'est pas dit avec des mots. Là aussi, c'est un peu étrange. Dans la psychanalyse du bébé, bon, et encore. Le psychanalyste donne toute son importance à ce qui parle en dehors du langage verbal. Ça, c'est quand même une position qui n'est pas... Il n'est pas le seul à la soutenir. Alors... C'est un psychanalyste qui semble avoir une inclination vers Françoise Dolto pour concilier la foi catholique et au risque de la psychanalyse, et qui semble, il l'écrit, préférer l'être pour la mort à l'être pour le sexe, qui est la référence de freudienne et lacanienne. Sauf peut-être quand il s'intéresse à l'inceste auquel il a consacré un séminaire en 2017. Donc, une version de la psychanalyse tout à fait particulière, mais dont il n'est pas l'unique représentant. Du coup, ça a éclairé pour moi ce qu'il disait dans son article un petit peu plus loin, à propos de la prise de position qu'il reproche aux analystes qui ont pris parti dans l'élection présidentielle. Il écrit à propos de nous, donc, « Cette prise de position se fait au détriment de la parole reçue comme de la volonté de donner la parole à ceux qui ne l'ont jamais eue et dont l'unique moyen de prendre voix se réduit à un certain type de vote, je ne peux pas le citer, ou à l'abstention. Et suit une diatribe contre nous assez violente qui, les psychanalystes mondains, sikhs, bon, communauté sémantique avec un bord politique un peu douteux, qui, selon lui, nous, psychanalystes mondains, ne recevons certainement pas, et là, il fait une longue liste, très joliment écrite d'ailleurs, de sujets souffrants, d'exemples de difficultés des sujets contemporains mis à mal par le discours actuel. Bon, évidemment, il se trompe. Nous recevons beaucoup de sujets, tous, je le sais, tous les collègues reçoivent beaucoup de sujets dont ils donnent la liste, mais lui est sûr que non, en tout cas. Et du coup, il se retrouve à faire une critique de la psychanalyse qui est quand même la critique de tous les fascismes à l'égard de la psychanalyse. Science bourgeoise, dépravée, lettres pour le sexe, enfin, c'est quand même très surprenant. Et il conclut, le psychanalyste, sauf à se renier, ne cherche ni à convaincre, ni à élever le débat, non plus qu'il se laisse disperser par la rumeur du monde. Donc vous voyez, un psychanalyste comme ça, très à l'écart, dans son cabanon. Il s'attache à entendre, ce qui nécessite bien évidemment de déceler en lui-même ce qui l'en empêche, bon, bien sûr. Ainsi se forge sa pensée, la pensée du psychanalyste, dont il peut, dont il a à témoigner. Et donc ce billet s'appelle « Appel d'un psychanalyste ». Effectivement, on a là un psychanalyste, un tout seul, muet, quasi crucifié, en résonance avec la douleur de ses patients, hors tout lien social, pas même avec des collègues. et qui lance comme ça une bouteille dans l'océan des réseaux sociaux. Du coup, je trouve que ça éclaire bien son lapsus qu'elle a mis. Hein, il s'agit de la psychanalyste et non pas la psychanalyse. Voilà, s'il n'y a pas la psychanalyse, il n'y a pas son discours, il n'y a pas ses praticiens, il n'y a pas son lien social, aussi étrange soit-il, bien sûr, il n'y a pas son articulation au lien social courant. Et au fond, ça n'est que un psychanalyste dans sa vacuole, celle de sa jouissance, et au fond de laquelle il profère cette accusation diffamante, même injurieuse, puisqu'il dit que la liste des personnes associées à l'appel, l'appel des psychanalystes, la liste des personnes associées à cet appel nourrissent mes craintes, c'est même pas français, c'est nourrit mes craintes, et il les qualifie d'initiateurs et défenseurs de l'état d'urgence, référence à Manuel Valls, melting pot intellectuel, confusion avec le champ médiatique, qui ont participé plus qu'à leur tour à la situation actuelle. Donc une condamnation très violente. Bon. Et puis pour finir, ce Saint Jean-Marie, de son prénom, apôtre de la douleur, se plaint de l'incompétence politique, sans même y apporter la moindre interprétation, ne serait-ce que interprétation. Ne pas se salir la bouche. Au fond, c'est une position de belle âme, me semble-t-il, dans une souffrance inexpugnable, et ça n'est pas la nôtre. Il semble que, du côté de l'intention de débattre avec la société, avec les politiques, il y a une autre forme de jouissance, oratoire, pour le moment, une joute, puisque nous nous sommes sentis, nous, psychanalystes et citoyens, menacés par la configuration particulière de cette élection présidentielle. Donc je ne rentrerai pas plus dans les détails qui sont bien sûr connus du fait de l'interdiction de faire campagne. Alors il y a une opposition classique dans la sagesse populaire, autrement dit dans l'opinion commune, entre acte et parole, ou bien acte et pensée. On voit bien que ce collègue la met en action. La parole a subi une certaine dépréciation dans un discours philosophique lorsqu'on la compare à l'acte. Par exemple, Marx écrit que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, et ce qui importe maintenant, c'est de le transformer, d'où la révolution. Mais Lacan dépréciera cet acte de Lénine en parlant de passage à l'acte en ce qui concerne la révolution. Donc, connotation péjorative. Notamment, péjorative, passage à l'acte, par rapport au concept d'acte que Lacan va développer. Et puis, l'ironie de Lacan à l'égard de la Révolution, qui ramène au même point, qui profite au maître, etc., des références qui sont bien connues maintenant. Et donc, au que faire de Lénine, Lacan opposera un que dire, en se basant sur une conception de la parole où, en effet, il existe un acte de parole. Et dans cette perspective, c'est peut-être même l'acte le plus élevé, à condition, bien sûr, que cet acte de parole ne soit pas que du semblant. Donc, je n'entrerai pas dans ce développement que vous avez largement exploré à Bordeaux, sous la houlette de Philippe Lassagna, dans la lecture de L'Étourdi, et dont il nous a rendu compte dans un séminaire tenu l'année dernière à Paris, qu'on trouve sur Radio Lacan, et qui est absolument passionnant. Mais si Lacan nous ouvre à la perspective d'un tel acte, c'est que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, qu'il avait prophétisé, comme quelques autres choses, une ère qu'on dit aujourd'hui de la post-vérité, celle qui annonce que beaucoup de choses ne sont en effet que du semblant, et que non seulement on s'en accommode, mais qu'on joue même avec. Et la parole publique en est une des modalités. Jacques-Alain Miller le disait hier soir au Forum à Paris, « Nous avons diagnostiqué une défaillance du monde politique et avons décidé de nous y mettre ». En tant que psychanalyste, Nous sommes tentés de comprendre la situation à partir des discours et de la langue. Je vais essayer de dire quelque chose de ça. Donc ça, je ne l'avais pas écrit. Roland Barthes a dit dans sa leçon inaugurale au Collège de France que la langue est fasciste. Et il explique que c'est parce qu'elle oblige à dire. C'est vrai. Mais on peut dire aussi, à l'inverse, que c'est surtout que le fasciste a l'art de se faire maître de la langue, dire pour diriger. Et qu'il y a, au contraire, un état de la langue qui favorise la liberté. Donc, bien sûr, d'un côté, il y a, par exemple, la langue du Troisième Reich, décrite par Klemperer, ou Surgeon contemporain, la description par Éric Hazan de la langue de la Ve République, Lingua Quintae Respublicae, LQR, c'est un ouvrage de 2006, je crois, oui, 2006. C'est très différente de la LTI, mais dont il explique comment, au fond, les éléments de langage se sont imposés à des millions d'exemplaires et que c'est une manière de parler qui est cohérente et mégaphonique, ce sont ces adjectifs. Donc, dans les deux cas, langue du Troisième Reich ou bien LQR, LTI ou LQR, il s'agit de sémantique. Et notre collègue Catherine Lacasse-Paul en a fait état récemment dans le compte-rendu qu'elle a fait du scalp de Bordeaux, qui est paru dans Lacan Quotidien, en citant Charlotte Blanc à propos de la novlangue de l'extrême droite. Mais il n'y a pas que la sémantique, il y a aussi la grammaire, la syntaxe, que Lacan a fait équivaloir à un moment à l'inconscient. Jacques-Alain Miller évoquait récemment dans son journal Extime, à propos d'un courrier de Michel Goethe et de sa méditation sur le mythe de Babel, que pour Michel Goethe, la langue de Babel était faite de paroles scellées, interdisant toute discussion. La fameuse tour, disait-il, avait le sens d'un défi lancé au ciel avec un projet d'idolâtrie, alors que la langue est faite pour parler de ce qui n'existe pas, ce qui veut dire que la liberté est dans la langue. Le manque radical de la référence, où son ratage structurel permet de fonder le concept de liberté au niveau même de la langue. On peut, au niveau de la langue, donner un sens à la liberté. Le soi-disant arbitraire du signe exprime et dissimule à la fois la fonction de la liberté. Le fait que le signifié soit disjoint du signifiant, contrairement à ce qui est le cas dans la langue verrouillée de Babel, ménage la faille où se glisse la liberté. Fin de citation. Est-ce qu'on peut parler d'un état de la langue contemporaine? J'ai essayé de le faire modestement, à la mesure de mes capacités. Je crois qu'on peut faire déjà l'hypothèse d'un appauvrissement global. Et aussi, du fait de la pluralisation des signifiants maîtres, leur perte d'emprise sur la langue produit, il me semble, une généralisation à toute la langue, à l'instar du discours schizophrénique où, Freud le notait, le mot est la chose. Chaque mot devient potentiellement comme le référent, sinon de la chaîne, du moins de lui-même. Chaque mot est libéré, affranchi, on pourrait dire, de ses tutelles. Et il me semble que c'est de là qu'on peut faire une analogie avec le relativisme et l'individualisme de l'époque dans la langue elle-même. Une espèce de nébulisation, un brouillard signifiant. Et puis, effet du temps accéléré qui caractérise nos sociétés à l'ère du discours capitaliste, j'ai envie de faire aussi deuxième hypothèse d'une contraction, d'une compression de l'énonciation qui impacte la dialectique, c'est-à-dire la différence signifiante. Le fait que, au fond, les signifiants se compactant les uns contre les autres, il n'y a plus de possibilité d'opposer un signifiant à un autre avec l'articulation et le temps qui va avec, et que, au fond, ça résonne avec ce que Lacan utilisait comme mathème pour définir la débilité mentale, à savoir l'holophrase, c'est-à-dire le fait que deux signifiants soient collés l'un à l'autre et qu'il n'y ait pas cette opposition S1, S2. Et je crois qu'à partir de là, on obtient des effets massifiants, non seulement au niveau de la langue, mais au niveau même du collectif, qui peuvent à l'occasion faire slogan. Alors, Klemperer le montre pour ce qui est de la LTI, c'est-à-dire l'agrégation de signifiants qui fabrique des néologismes. Bon, par exemple, c'est assez connu, la célèbre marque de voiture Volkswagen, qui est un des exemples phares de création de Goebbels concernant la langue. Donc, en prenant deux signifiants, deux noms communs, on obtient un nom propre qui devient un signifiant maître éventuellement. Et donc, la langue du Troisième Reich était truffée de ce genre de mots. On a aussi donc l'exemple qui a été donné par Charlotte Blanc chez vous à Bordeaux dans le langage de telle partie qui se vous voyez accéder au pouvoir, de concaténation de mots, d'agrégation de morceaux de mots pour produire des slogans, des sous-entendus avec la perspective d'un effet massifiant sur le collectif. Globalement, il y a donc, me semble-t-il, du fait de ces trois éléments sur la langue, il y a une débilitation au sens de la faiblesse de la parole. Éric Fassin avait en son temps analysé brillamment le discours du futur président Sarkozy, c'était en 2007, dans Le Monde. Ça, on peut en parler puisque c'est pas un candidat à l'élection présidentielle. Et donc, Sarkozy il disait une chose et son contraire, jusque y compris dans la même phrase, produisant un effet d'affolement et de brouillage que Fassin considérait comme cynique. La rhétorique de Nicolas Sarkozy participe, disait-il, d'une politique d'affolement, au même titre que son agitation tourbillonnante et sa fébrilité vibrionnante. En ne respectant jamais le principe de non-contradiction, le candidat rend la contradiction impossible. Comment s'opposer à lui quand il dit tout et son contraire ? Le discours politique n'a plus aucun sens et toute réponse critique ou solution alternative est piégée d'avance, récupérée et discréditée par la logorrhée du candidat. Nicolas Sarkozy, c'est celui par qui le désordre arrive dans la société et dans les esprits, et c'est sur cette stratégie de désordre tant social qu'intellectuel qu'il bâtit sa politique d'ordre. Bon. Alors, cette analyse n'a pas empêché l'élection du candidat. Pas plus que toute analyse concernant le candidat Trump aux États-Unis. Et chez nous, rien n'est fait. Et puis, si ça ne l'a pas empêché, il faut peut-être se poser la question de la justesse de cette analyse. Peut-être qu'au-delà de la description du phénomène, l'analyse manquait les ressorts. Peut-être que ça n'était pas un plan cynique. Peut-être Nicolas Sarkozy n'avait pas cette stratégie qu'Éric Fassin lui a prêtée et qu'il s'agissait plus d'un effet que... d'un effet du désordre, un symptôme du désordre, d'un désordre ambiant, que d'une stratégie ordonnée. Quant au résultat de la stratégie, on ne peut pas dire non plus que l'ordre est suivi et qu'il se soit installé ce qu'on craignait, ce que Éric Fassin craignait. Ça a continué à être la pagaille, comme avant, et sinon pire. Ce qui apparaît donc à distance, c'est plutôt aujourd'hui une aspiration à l'ordre malgré le désordre. Tout le démontre aujourd'hui, me semble-t-il, et la question est plutôt donc celle de réactions nostalgiques, de réactions fascistes qui sont des nostalgies, peut-être nostalgie de l'Empire, comme l'expliquait Lacan, face à la montée structurelle d'un grand désordre, qui est le désordre du symbolique contemporain, et dont j'ai essayé de déployer quelques effets dans la langue, un désordre qui caractérise l'état de la civilisation. On peut dire que ça empire, il y a les empires, disait Lacan, et non plus l'empire au singulier, qui ne sont que, au fond, des emporiums, Philippe Lassagnin en avait parlé chez vous, le grand bazar des marchés, du supermarché universel capitaliste. Alors, il y a une autre réaction fasciste contemporaine, c'est l'islamisme, lequel utilise aussi des signes anciens qui laissent croire qu'il s'agit d'un retour à une tradition, alors qu'en fait, il s'agit tout à fait d'une anti-tradition qui récuse plus d'un millénaire d'interprétation, de glose juridique notamment, afin de simplifier tout ça, de remettre de l'ordre dans la pagaille de l'interprétation qui dérive à l'infini, sans parvenir désormais à contenir la pulsion. Il s'agit, me semble-t-il, du même processus que celui que décrit Klemperer à propos de l'usage des runes par les nazis. C'est ainsi que l'islamologue dominicain, qui est basé en Égypte, Adrien Candiard, peut expliquer que le salafisme n'est pas un mouvement traditionnel, que c'est même exactement le contraire. Il refuse l'islam traditionnel au nom d'un autre islam jugé plus authentique. Il cherche à dynamiter le passé au nom d'un rapport direct à l'origine. L'émergence de ces réactions autoritaires et populistes se fait donc dans ces conditions où le tissu de la langue, remanié par la science, ne permet pas de s'orienter dans le réel débridé, réel qui a pris le mot rodent, disait Lacan. Et la politique, elle est comme la langue, elle est débilitée. Elle n'a pas pu s'occuper de ce réel et des sujets contemporains perdus, désorientés, périphérisés, selon le terme de Christophe Guilly, notamment Christophe Guilly qui évoque la ségrégation des petits blancs façon Amérique, mais en France, les petits blancs qu'on a mis en cause dans l'élection de Trump, des sujets exploités comme jamais, menacés dans leur sentiment d'identité, et tentés par ces solutions simplistes ou périmées. Il me semble que notre devoir, en tant que psychanalyste, était de dire quelque chose. Dire quelque chose publiquement, et pourtant, Jacqueline Lamillère le confirmait dans une interview à la revue Cité en 2003, la psychanalyse est un immense projet d'éducation privée. Privée, car elle ne prend pas l'homme en masse, disait-il, mais individuellement, ou un par un. Mais, disait-il, nous en sommes au point où cette pratique, et celle qu'elle inspire, les psychothérapies, sont passées à une telle échelle de masse, au moins dans les sociétés occidentales, donc c'est une éducation, elle est privée, mais elle est désormais immense. La psychanalyse a procédé au un par un, mais elle a obtenu, par sa contribution à l'acceptation individuelle de la pulsion, un consentement massif à celle-ci, une tolérance civilisationnelle. Elle n'attend par ailleurs ni encore moins n'agit pour une révolution politique, car elle sait que, comme l'interprète Lacan en mai 68, les révolutionnaires attendent un nouveau maître. La révolution profite à Bonaparte. Elle instille, dit Jacqueline Lamillère, lentement, diffuse lentement une action qui peine à dépasser le cas par cas, mais ce faisant, elle a peut-être plus changé le monde que la politique. D'ailleurs, il y a des théories d'historiens qui estiment que la politique n'a rien changé, qu'il y a beaucoup de contingences. On en parlait avec Marie-Laurent à midi. Qu'au fond, c'est plutôt l'économie, le commerce et la géographie qui ont fait l'histoire. Alors peut-être la psychanalyse y a participé. Quelle était la position de Lacan en politique? Jacqueline Lamillère résume, la défense à la droite des idéaux, des systèmes, des utopies dont le champ politique est semé. Il ne croit pas aux lois de l'histoire. Il récuse Bossuet, Toynbee, Comte avec Marx, etc. Pas de nostalgie, pas d'espoir. Quant à la modernité, il a comme Freud le sentiment très vif de ses impasses. Les lendemains ne chantent que le chant du malaise. Ce que l'on trouve au contraire, et à foison, ce sont des notations sur la politique qui vont de l'ironie au cynisme, ponctuées de sarcasmes et de ricanements divers. Elle est comique, elle est meurtrière, etc. Et puis, toujours l'exploitation, le discours du maître au travail, y compris pour la contre-société communiste, qui, selon Lacan, a contrefait les maîtres mots de l'ordre bourgeois, travail, famille, patrie. Par conséquent, on le voit, la psychanalyse et la politique sont dans un rapport qu'on pourrait dire, en paraphrasant Sacha Guitry, et j'ai utilisé pour mon titre, tout contre. Pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour, rajoutait Jacques Alain Miller, ce qui est conforme au fait que ce n'est pas seulement que la politique repose sur l'inconscient freudien, ce qui est une évidence, mais que l'inconscient, c'est la politique. Soit, autrement dit, que la psychanalyse, c'est l'envers de la politique. Et donc, Lacan va conceptualiser quatre discours pour définir les modalités du lien social en récusant la notion de la société. Et donc, il oppose le discours analytique au discours du maître, qui est aussi le discours de l'inconscient. Donc, dès le départ de l'enseignement de Lacan, il y a cette égalité entre l'inconscient et la politique. Et ça continue. Alors, ça ne signifie pas que le psychanalyste intervient en tant que politique quand il prend part au débat, mais que la sorte de disruption qu'a constitué le surgissement de la psychanalyse dans la civilisation, avec des effets civilisationnels, cela explique pourquoi, probablement en retour, les politiques se sont intéressés à la psychanalyse, avec le sens de menace que ça peut avoir, depuis le début du XXIe siècle, pour lui demander des comptes, l'évaluer, l'interdire, la raisonner, tempérer son caractère, sinon révolutionnaire, du moins subversif. Évidemment, ça n'est pas la psychanalyse comme cause. La psychanalyse apparaît dans un état de la civilisation qui est la civilisation transformée par la science, les Lumières. Mais, du coup, cette modernité, nous dit Jacques Alain Miller, met en évidence le caractère artificiel construit de toute chose en ce monde, le lien social, les croyances, les significations, les paysages. La psychanalyse y participe. Depuis les Lumières, il n'y a pas eu de discours plus puissant à faire vaciller les semblants. Et donc, désidéalisation de la politique, marketing politique, tout l'envers du fanatisme, disait Miller. Il s'en réjouissait, il faut quand même avoir le cœur bien accroché pour s'en réjouir. Il se réjouissait que le débat public se passait aujourd'hui, disait-il, dans le registre de l'incroyance. Ça, c'était en 2003. Et donc, la psychanalyse est convoquée maintenant, par exemple, pour intervenir dans le débat public, comme la loi sur la bioéthique, le mariage pour tous. Et les psychanalystes ne sont pas toujours aussi subversifs que la psychanalyse, mais parfois sont spontanément conservateurs. Il me semble que reconnaître la conséquence de notre action, c'est en accepter la responsabilité et donc prendre une part au débat public. Sous quelle forme ? Lacan parlait à ce propos, du rapport des psychanalystes, et ça nous concerne beaucoup ici probablement, avec le discours du maître, il employait le mot de collaboration dans son texte de télévision. Donc, avec quoi et sous quelle forme, à quelles conditions collaborons-nous ? Il me semble qu'il s'agit des rapports entre la formation, psychanalyse comme formation, et la société. Donc le psychanalyste, non pas en tant que psychanalyste, mais en tant que citoyen. Citoyen, mais modifié par son expérience de la psychanalyse. Son expérience, non pas professionnelle, mais personnelle, d'analysant. Parce que c'est pas sans risque, sinon, qu'on pourrait accoler la pratique psychanalytique avec une pratique de prise de parole en public. On ne voit pas trop comment, ces deux discours étant l'inverse l'un de l'autre, on ne voit pas en quoi, en tant que psychanalyste, on pourrait, sans risque, prendre part au débat public. Et Lacan lui-même a défini la débilité comme ça aussi. C'est une autre définition de la débilité. Il y a l'holophrase, et il y a aussi être à cheval sur deux discours. Alors, il me semble qu'en tant que citoyen, on ne peut pas ne pas collaborer. Et à partir du moment où la situation récemment devenait dangereuse, non seulement pour la société, mais pour la psychanalyse elle-même, il me paraissait impossible à des psychanalystes de ne pas intervenir en tant que citoyen dans le débat public. Dans son rapport pour l'Assemblée générale de l'AMP en 1994, Éric Laurent a signé à l'école de psychanalyse qui est la nôtre la mission de participer au débat, notamment il citait l'état comptable, universitaire, débat sur l'évaluation qui en résulte, débat sur le corps et ses appareillages, qu'il concerne les manipulations du vivant et de son génome, aussi bien que les prothèses médicamenteuses ou autres, débat sur les idéaux familialistes, déjà à l'époque, notamment ce qu'est un père, tout autant qu'à la défense de la pratique de la psychanalyse elle-même. Faudra-t-il rajouter aujourd'hui à cette liste la défense de notre société dans les moments où elle est affectée de, peut-être, de convulsions qui caractérisent le passage à un autre état de la civilisation? Et je crois que Jacques Alain Miller a évoqué dans sa dernière livraison de son journal Extime quelque chose de l'ordre de l'incarnation d'une nouvelle idée dans la civilisation. Est-ce que cette dérive des discours que Lacan a installée à la place de la notion de société, du discours du maître à celui du discours capitaliste, est-ce que cette dérive-là ne produit pas, comme la dérive des continents, des secousses et tremblements de terre qui témoignent de l'affrontement de ces discours? C'est un phénomène qui a commencé au début de la mondialisation, et un journaliste économique rappelait récemment que dès le XVe siècle, on avait déjà des effets de cette mondialisation avec des enrichissements extraordinaires qui paraissaient si obscènes à l'époque qu'il mettait ça en rapport avec l'émergence du discours luthérien en réaction à la première mondialisation au XVIe siècle. Ces discours qui tentent de rétablir l'ordre ancien des choses, il me semble qu'ils sont toujours vains, qu'ils sont souvent néfastes, qu'il n'y a pas de retour en arrière, et que par contre, l'avenir nous appartient à construire sur des nouvelles bases. Alors évidemment, c'est un peu effrayant parce que tout peut arriver. On voit bien que ce que Lacan évoque, rappelé par Jacques Miller récemment, du passage du régime du nécessaire au contingent peut faire arriver un Trump au pouvoir, par exemple. Et que peut-être qu'on peut interpréter dans la campagne électorale les signifiants maîtres du dégagisme et de l'antisystème dans ce sens-là, comme symptôme de cette structure. On a coupé des têtes, c'était incroyable, avant même qu'elles soient couronnées. C'était jamais vu. Normalement, il y avait un état de grâce. Bon, pour Hollande, déjà, on avait vu que ça s'était réduit à quelques mois ou quelques semaines. C'était très rapide, plus rapide que jamais. Et là, l'état de grâce n'existera certainement pas. Et même, on a coupé les têtes des favoris. Celle de Hollande, Valls, Juppé, Sarkozy, avant même l'élection. Pour installer de nouvelles têtes, combien de temps? Peut-être l'homme sans qualité, au fond, c'est ce qui caractérise le mieux la nouvelle tête. Peut-être un homme sans tête, on ne sait pas très bien. Peut-être c'est la seule manière de rester au pouvoir, ne pas être un numéro un. Il n'y a plus que des numéros deux, c'est comme dans la série Le Prisonnier. On cherche le numéro un, c'est une main invisible. Alors, de plus, on aura une élection sur une base minoritaire, c'est-à-dire que la majorité sera sur une base de voix qui sera la plus basse qui ayant jamais existé dans la Ve République. Et tout ça me semble illustrer qu'en effet, ça n'est plus le signifiant maître qui est aux commandes dans la civilisation, et donc rien ne se passe plus jamais comme prévu, et il y a un risque considérable que le pire se produise, et ça risque de durer. J'aurais aimé que Philippe Lacadé puisse dire quelque chose de son article qui me paraît très enseignant, à la fois que très émouvant.
Merci de ta proposition. J'ai adressé effectivement un article à Jacques-Alain Miller qui s'appelait « Stéphane Zweig, le chasseur d'âmes et Freud, l'incurable désillusionniste ». Parce que je m'étais intéressé à partir d'un livre un peu terrible de Francis Huster sur l'énigme Zweig. Francis Huster qui a beaucoup joué Zweig, et notamment le joueur d'échecs, et qui, au fond, mettait en évidence ce qu'il appelle la lâcheté de Zweig. Et j'étais un peu surpris de ce côté un peu violent. Et comme nous savons que la lâcheté a surtout à voir avec quelque chose de l'éthique du bien-dire, et qu'au fond, le sujet, peut-être Zweig, n'aurait pas, au-delà de ce qu'il a apporté à la culture, n'aurait pas peut-être trouvé les moyens de bien dire ce qu'il s'agitait pour lui à cette époque-là. Et comme en plus je suis en train de faire un travail sur lui, je me suis donc intéressé au lien entre Zweig et Freud. Zweig avait donc lu le livre de Freud, enfin qui a écrit un livre remarquable sur Freud, La guérison par l'esprit, où il arrive d'ailleurs à démontrer bien avant Lacan que pour lui, effectivement, l'inconscient est structuré comme un langage. Donc il rend hommage à Freud en tant que le dévoileur des profondeurs, voire même du démon de l'âme, et qu'au fond tout ça serait lié à la sexualité. Donc une grande position de Zweig à cette époque-là par rapport à ça. Mais il recule devant quelque chose qui lui met le moral à zéro. Il faut dire qu'il avait quand même une tendance mélancolique depuis son jeune âge. Et donc, il ne comprend pas le malaise dans la civilisation de Freud. Lui qui était au fond un humaniste et qui avait beaucoup écrit et qui, au fond, pensait que l'art passerait, non, que l'art continuerait alors que la politique passerait. Donc, il ne comprenait pas cette position de Freud par rapport à la pulsion de mort. Et aussi à l'instinct de bestialité qu'il peut y avoir en tout être humain. C'est pour ça que parfois, il ne faut pas trop chatouiller la haine et le sentiment le plus lucide de l'être humain. Et donc, par rapport à ça, il reculait. Et dans une correspondance avec Roth, correspondance tout à fait passionnante, Joseph Roth reprochait à Zweig de ne jamais prendre position publiquement. Il y a un film d'ailleurs qui est sorti récemment où on le voit très bien, même au-delà de ce qu'il écrit, parce qu'au fond sa thèse à lui c'était d'utiliser des figures de la littérature pour démontrer comment le fascisme pouvait œuvrer. Enfin, il avait vraiment une position, il était parti en Angleterre, il s'était exilé, mais il refusait à tout prix de prendre position publiquement en disant qu'il laissait ça aux journalistes, aux médias, et que lui, il fallait qu'il reste dans une position de neutralité et qu'il fasse au fond triompher la culture. Donc il s'est retrouvé en Angleterre. En Angleterre, il a été suspecté, comme il était allemand, d'aliens ennemis, d'étrangers ennemis. Donc il est parti au Brésil, là où il pensait pouvoir trouver un havre de paix. Manque de peau, les Allemands et le Brésil commencent aussi à apporter une sorte d'acquaintance avec le régime nazi. Et là, à la fin de sa vie, donc, ne supportant plus qu'au fond, ce qu'on lui retirait, c'était en fait le fait de pouvoir parler sa langue maternelle, c'est-à-dire l'allemand, il décide, je crois que c'est ça la valeur de son suicide, c'est-à-dire, au fond, il décide de se séparer ce à quoi il tenait le plus, c'est-à-dire de sa langue. Et en même temps, dans le monde d'hier, à la fin de sa vie, donc ses écrits quelques temps avant de se suicider, le 22 février 1942 à Pétropolis, il décrit très bien qu'au fond, mais Freud avait raison, mais il gardait quand même l'espoir. Il gardait l'espoir, il gardait toujours un espoir aux Nations Unies. La psychanalyse est subversive, elle n'est pas pour autant progressive, mais pas non plus réactionnaire. Est-elle alors désespérée ? Alors là, phrase terrible, disons qu'elle vous opère de l'espoir. C'est l'ablation du principe espérance, pour reprendre le titre « À mourir du rire » d'Ernest Bloch. Et on voit très bien que le drame de Zweig, c'est qu'au fond, d'avoir toujours parié sur un idéal, que quelque chose ferait qu'au fond, eh bien, l'être humain, quand même, se sauverait. Enfin, il y a quelque chose. Il gardait espoir. C'était... Et il ne supportait pas que Freud soit ce désillusionniste insupportable. D'ailleurs, son grand truc, c'était mais quel est ce personnage, Freud ? Quel est ce désir de ce type qui peut paraître terrible et tout ça ? Et pourquoi il rappelle sans arrêt qu'il y a la pulsion de mort ? Et ça rejoint, au fond, peut-être, je terminerai là-dessus, sur ce que disait très bien Jacques-Alain Miller, s'il y a une éducation à faire, c'est l'éducation du peuple français. C'est-à-dire, au fond, sans arrêt, et pour ça, le psychanalyste doit intervenir, et même publiquement, rappeler l'importance de la pulsion de mort, l'importance de ce que tu disais très bien, des pulsions. Et là, il y a publiquement quelque chose à dire, et le fait qu'on ne plaisante pas avec cette question de la haine. Juste pour terminer, parce qu'il se trouve que je m'occupais, parce que j'en suis parti, d'une équipe de déradicalisation dans le 9-3. Et il y avait une psychanalyste qui était un peu comme ton psychanalyste là, de Twitter. Je sais que tu passes beaucoup de temps sur Twitter. Je te remercie d'ailleurs de nous faire...
Si tu le sais, c'est que tu en passes beaucoup aussi.
Voilà. Mais non, mais parce que ce type-là, quand il dit, quand même, c'est terrible... La référence absolue du psychanalyste, écrit-il, est la position du nouveau-né et du tout-petit, celui du temps de l'infance. La période où l'enfant n'a pas accès au langage verbal. Là, il faut être précis, l'infance, c'est pas ça. L'infance, pour les latins, c'est la période jusqu'à 7 ans, c'est-à-dire quand l'enfant, c'est ce que dit Lacan d'ailleurs aux Américains, c'est quand l'enfant commence à avoir accès à l'écriture, et tout d'un coup, dans l'entendu, quand il se met à écrire, un mot peut avoir plusieurs sens. Quand la langue cristallise, et là... Alors on voit très bien comment moi, pourquoi je suis parti de cette équipe de déradicalisation. Parce qu'il y avait une psychologue qui était un peu la gourou du truc, qui disait « Ah mais c'est pas important ce qu'ils disent, les radicalisés, c'est des mots. Par contre, ce qui est important, c'est ce que moi je ressens quand je les écoute. Je m'identifie à la colère du peuple, comme dit l'autre. Je m'identifie à, alors là je lui dis « Ah mais c'est ça peut-être que tu veux dire, donc elle est dans l'infraverbal ». Moi, je n'ai pas pu supporter ça. J'ai un peu subverti la chose. Je leur ai donné la possibilité de travailler avec deux psychologues, psychanalystes formés par l'association Paradoxe. Ils y ont vu que du feu, ce qui fait que maintenant, c'est eux, ces collègues charmantes, qui reçoivent donc les djihadistes. Sinon, enfin, les radicalisés. Sinon, c'est quand même curieux. On va s'occuper de jeunes. Dans le fond, la mort est peut-être la vérité absolue, le triomphe de la mort. On va s'occuper d'eux en disant « Mais de toute façon, ce n'est pas important ce que vous dites. La parole n'a aucune valeur. » On voit très bien, c'est pour ça que l'autre, plus précis dans les deux opposants, est quand même quelqu'un qui sait ce que parler veut dire et qui est excessivement précis avec les mots, tandis qu'au fond, l'autre était plutôt, comme on l'a vu récemment... les émotions, le corps. Voilà, donc c'est pour ça que c'était très important ce que tu disais par rapport à la référence au langage. Parce que c'est ça, quand même, un des enjeux fondamentaux. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui pensent qu'on peut tout dire, à la limite, les autres s'en foutent. On peut faire des programmes, on sait très bien qu'ils s'en foutent. Par contre, ce qu'il faut, c'est occuper l'espace avec le corps, avec le sens de la formule. Ça, c'est terrible, quand même. Mais quand on voit que ça peut avoir des applications pour certains qui se disent psychanalystes et qu'ils opèrent comme ça dans la cité, là, on se dit quand même... Et qu'ils ont un fric fou, ces équipes de déradicalisation, on est quand même très inquiet. Et c'est là où nous, psychanalystes d'orientation lacanienne, comme on sait qu'effectivement, il y a trois métiers impossibles, ce que tu démontrais très bien, gouverner, éduquer, psychanalyser, Et comment c'est qu'il y a ça? C'est là où, effectivement, on peut collaborer. On peut collaborer avec des partenaires d'autres disciplines, prendre place dans la cité, pour justement reprendre ce que disait très bien Lacan dans l'envers de la psychanalyse, c'est-à-dire, et ce qu'a très bien réussi Jacques-Alain Miller, c'est-à-dire, au fond, faire désirer. Et comme le disait aussi très bien notre maire de Bordeaux, non pas Alain Juppé, mais Michel de Montaigne, dans son texte sur l'éducation des enfants, il faut entrer en conversation avec les gens pour leur donner des leçons de vie.
Merci. Justement, je voudrais rebondir sur une expression que Philippe Lacadée vient d'employer, de parler de... il n'a pas dit la psychanalyse dans la cité, mais enfin, vous avez employé le terme cité, donc c'est vrai que c'est une expression qu'on emploie beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, la psychanalyse dans la cité? Puisque c'est un peu une question que vous posez, que faire et comment faire? Donc, il y a participer au débat public. Il y a d'autres voies sans doute, et quels sont les pas de plus que l'on pourrait faire? Alors, c'est vrai que l'expression psychanalyse dans la cité, peut-être faut-il l'entendre au sens d'Aristote, c'est-à-dire que Aristote dit l'homme est un animal politique, donc c'est par essence il est politique, c'est-à-dire que par essence il s'intéresse aux problèmes de l'État. Ce ne sont pas des problématiques qui se rajoutent en plus, et il s'y intéresse en tant qu'homme. Ce n'est pas des questions auxquelles il s'intéresse par accident. Et donc, sans doute que les psychanalystes sont convoqués à ça, de par leur essence d'homme, d'humain, de s'intéresser aux problématiques de l'État et donc aux problèmes politiques. Et donc, peut-être, comme vous êtes en plus directeur d'institution, dans les exemples, les illustrations de ce que peut être la psychanalyse dans la cité, il y a à faire prendre part au débat public, mais également ce qu'on appelle les institutions de psychanalyse appliquée, dont peut-être on pourrait dire deux mots. Et ma question, c'est un peu, d'abord, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est? Et quel pas de plus pourrait-on faire pour être identifié comme tel? Comment se faire? C'est pas tant se faire encourager que d'être reconnu comme tel. Y a-t-il un pas de plus à faire ou pas? Philippe Lacadée parlait de discuter avec les gens, enfin, d'une question de la transmission. Voilà, première question.
Oui, c'est vrai que ça me tient beaucoup à cœur, puisque je suis aussi au CPCT, d'ailleurs, à Paris. Alors là, c'est une institution de psychanalyse appliquée. On ne peut pas en dire autant des institutions du maître, c'est-à-dire du discours qui fonctionne selon le discours du maître. Dans mon institution, là où je suis directeur, en plus, donc j'ai une fonction de rappeler le discours du maître. Et je leur dis, il n'y a ni psychanalyse ni psychanalyste ici. Ce qui n'empêche pas que certains praticiens soient formés à la psychanalyse. Évidemment, c'est ce que on apprécie le plus, c'est de travailler avec des praticiens qui ont l'expérience de la psychanalyse comme expérience personnelle. Néanmoins, ce sont deux choses très différentes. Vous dites faire reconnaître les institutions de psychanalyse appliquée, ça c'est une question à part. Et puis, il ne faut pas oublier faire exister les institutions du maître. Je crois qu'il y a les deux choses qui sont importantes. On a beaucoup focalisé ces dernières années sur les institutions de psychanalyse appliquée parce que l'école de la cause en a créé beaucoup. Enfin, ce n'est pas l'école de la cause d'ailleurs qui en a créé beaucoup. Ce sont des praticiens avec un désir individuel absolument sorti d'aucune décision institutionnelle. Donc il y a deux parties à la question. Je ne sais pas jusqu'à quel point il faut faire reconnaître les institutions de psychanalyse appliquée, mais si on y va trop loin, si on fonctionne trop selon le discours du maître, avec les signifiants du maître, avec l'évaluation, les financements du maître, on est sûr par contre qu'on dépasse une ligne rouge, jaune, et qu'on n'est plus dans des institutions de psychanalyse appliquée, mais qu'on est dans des institutions du maître. Ça, on le sait. Donc, je sais qu'il y a eu tout un débat, que probablement vous avez eu ici aussi, sur ces limites, et la question notamment du financement a été centrale. Pour ce qui est des institutions du maître, les faire exister, à mon sens, passe par la psychanalyse aussi. C'est-à-dire qu'on sait qu'elles sont absolument rendues inopérantes par un discours du maître dans l'état où est le discours du maître aujourd'hui, c'est-à-dire un état qui est devenu un état purement comptable. On sait que ça tue, par contre. On sait que c'est l'autre limite des institutions du maître, de l'autre côté. on voit qu'on a les deux bornes, donc comme ça. Et donc, si l'institution devient absolument inféodée à la comptabilité et à l'évaluation, on sait que, par contre, il ne pourra plus rien s'y passer, y compris pour le bénéfice du maître. Donc, dans cette situation-là, il me semble que ce qu'il s'agit de dire au maître, c'est attention. Si vous allez trop loin, si vous allez trop loin dans cette direction-là, on ne vous servira plus à rien. Parce que les institutions dans lesquelles nous travaillons ont une fonction qui est une fonction un peu d'embrayage entre des sujets qui sont hors tout discours, hors discours, et la société. Si on enlève cette fonction, si on tue cette fonction par un excès de régulation qui voudrait ne laisser aucun reste, à ce moment-là, elle perd tout intérêt pour ces sujets-là qui ne seront plus accueillis chez nous, qui ne pourront plus trouver la fonction. Donc je crois qu'on a Caribe des Silla des deux côtés. Et il me semble que les deux types d'institutions sont appelés à persister avec des fonctions, des points d'entrée différents, qui peuvent être des points d'entrée dans le discours analytique éventuellement. C'est plus fréquent au CPCT qu'on fasse une analyse après avoir rencontré un analyste que dans une institution de toxicomanie, bien sûr. Ça n'existe quasiment pas. Les gens s'adressent à des institutions du maître parce qu'ils ne peuvent pas aller voir un analyste. C'est comme ça que je définirais une institution du discours du maître. Et c'est sa fonction. C'est là où il n'y a pas de psychanalyste possible, alors il y a une institution.
Alors, j'ai une autre question. Vous citez Jacques-Alain Miller, c'est en 2003, qui dit « La désidéalisation de la politique, faite aujourd'hui de petites phrases et de marketing politique, c'est à l'envers du fanatisme et c'est heureux », disait-il, Jacques-Alain Miller, « mais le débat public se passe aujourd'hui dans le registre de l'incroyance ». Alors, la question que je me posais, c'est si, justement, il y a une désidéalisation, donc si les idéaux foutent le camp et que c'est l'incroyance qui prime, comment qualifier la parole politique, alors, je ne sais pas si on peut dire ça, qui marche aujourd'hui. Enfin, en tout cas, de quelle matière est faite la parole politique aujourd'hui, si les idéaux se sont affadis? Est-ce que c'est les petites phrases, les formules? On parlait du sens de la formule.
Peut-être déjà, ça ne marche pas beaucoup.
Enfin, non plus.
Ça veut dire que... On est passé en France, ne serait-ce qu'en France, du septennat au quinquennat. Il y a eu une synchronisation avec entre l'élection présidentielle et législative. Le président de la République devient une espèce de premier ministre. Le premier ministre, dans tout ce shift de fonction, n'a plus de place. Il a même été question d'abroger la fonction. Donc on a une espèce de turnover accéléré avec une impossibilité de fonctionner avec des cohabitations comme il y avait avant, avec cette dialectique un peu plus lente. Au fond, ça correspond peut-être un peu à ce que j'ai essayé de montrer avec la fonction du temps sur le langage, cet effet de compression qui explique peut-être, au fond, j'ai justifié la parole de mon maître, mais enfin bon, quand Jacques-Alain Miller arrive à la radio et qu'il dit qu'ils sont nuls. Bon, il l'a dit différemment hier, il a nuancé, je ne sais plus comment il l'a dit, mais il a récupéré un peu le coup au forum d'hier soir en disant que les discours étaient nuls, ou enfin, je ne sais plus quel était le nom, enfin, il a pas qualifié la personne de nul. Mais voilà, il y a un effet de débilité qui est... je faisais référence au forum qu'on a eu en banlieue parisienne à Choisy il y a un peu plus d'un mois, je faisais référence au film « Idiocratie », qui est devenu culte et qui a été cité au moment de l'élection de Trump comme le film qui avait prévu l'élection de Trump. Donc c'est l'histoire d'un type qui est congelé, je ne sais plus pour quelle raison, puis se retrouve dans l'avenir. Et on le décongèle un peu trop tôt et il arrive dans l'état de la civilisation. C'est un monceau de déchets et de débilité et il devient président de la République. C'est assez drôle, il faut le voir. Peut-être que c'est quand même ça qui se passe, c'est-à-dire que cette parole-là, elle ne fonctionne plus que par des slogans, des punchlines, avec quelque chose qui ne peut pas servir de politique par la suite. Donc on a des très bons candidats à l'élection présidentielle, comme Sarkozy, qui deviennent des très mauvais présidents de la République. Peut-être on peut dire la même chose pour Hollande, je ne sais pas. Et puis, peut-être il y a quand même autre chose, il y a quand même encore le corps. Quelque chose de la tenue du corps qui fait poids, sans vouloir faire référence à un quelconque débat de présidentiel récent, peut-être il y a là quelque chose qui va faire poids. Et qui, alors c'est un point sur lequel je voulais interroger Philippe, puisque tu as dit, Philippe, tout à l'heure, qu'il ne fallait pas chatouiller la haine. Philippe Lacadet a dit ça tout à l'heure. Et moi, j'ai le souvenir que Lacan a dit quelque part qu'il ne fallait pas trop chatouiller l'objet A. Alors, au fond, il y a un lien entre les deux, bien sûr. Mais moi, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose qui a peut-être pas été, je n'ai pas évoqué du tout, là, qui a été cité par Finkielkraut et récemment dans son interview avec Elisabeth Lévy sur le site de la revue Causeur, au fond, sur les vraies questions que posait le Front National. Et bon, ça participe de ce qui est décrit par Guilly dans La France périphérique et puis dans son dernier ouvrage aussi, sur. Au fond, quelque chose de la liberté des sujets qui est atteinte par l'évaluation et qui est cité aussi comme élément très important par Éric Laurent dans son article de Lacan au quotidien d'hier. C'est qu'au fond, quand on chatouille quelque chose, on comprime, je crois qu'il disait Lacan, l'objet A. Quand on touche à quelque chose de la palpitation de la vie, quelque chose donc qui relève de l'articulation du corps et de la parole, notamment par l'évaluation, eh bien, on comprime ça, et c'est un peu comme une cocotte minute, on a quelque chose qui n'est pas forcément de la haine qui sort, mais qui est la pulsion de mort, et qui est cet espace de respiration que la science ne permet plus. Enfin, je voulais savoir, avoir un peu ton avis sur cette question.
Je crois que ça rejoint... Je crois que ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que si on part du principe que, et c'est quand même peut-être ce qu'a du mal à repérer le psy du Twitter, là, c'est que si effectivement les idéaux ou la fameuse question du nom du père n'est plus à sa place ou n'est plus opérationnelle comme elle pouvait l'être autrefois, il y a quelque chose qui surgit. Ce que Jacques-Alain Miller avait mis très bien en évidence dans un cours qu'il avait fait à deux avec Éric Laurent, et c'est pas par hasard, l'autre qui n'existe pas et ses comités d'éthique, où là, il mettait très bien en évidence un mathème de la modernité, c'est-à-dire quand l'expérience de satisfaction, c'est-à-dire l'objectita, parce que l'objectita, avant tout, c'est ça, c'est une expérience de satisfaction qui est telle qu'on peut l'élever à la dignité d'être un objet. Et elle prend appui sur le regard, la voix, les objets, bon... Et quand ça, c'est plus fort que les idéaux, ça ne sert à rien de vouloir en rajouter du côté de la répression ou de l'autorité autoritaire. Il faut arriver à pouvoir démontrer à ceux dont on s'occupe. Moi, je travaille beaucoup, par exemple, des expériences de conversation avec les élèves dans les collèges. Et c'est là-dessus qu'on travaille. C'est-à-dire entrer en conversation avec les adolescents, puisqu'ils ont droit à une heure de vie, à l'école. Donc c'est la vie de la parole. Comme dit Freud, il faut introduire du jeu. L'école est là, non pas pour revendiquer l'inexorabilité de la vie, elle ne doit pas vouloir être un plus qu'un jeu de vie. Donc jouant comme Montaigne à la vie de l'esprit. Et c'est ça qu'il faut sauver. La vie de l'esprit, comme disait très bien l'autre, ah, vous ne faites pas preuve de l'esprit de finesse. Qui est une expression de Pascal. Elle ne le sait pas. Pascal, elle ne doit pas savoir qui c'est. Donc, par rapport à ça, ce qu'il faut, je ne sais plus ce que je voulais dire, ce qu'il faut arriver à faire, et c'est pour ça que les quatre discours qui font lien social pour essayer de trouver ou de gérer les trois métiers impossibles, gouverner, éduquer, psychanalyser, il y en a un autre qui est faire désirer. Quand l'autre, il dit que faire le psychanalyste, on voit très bien que ça, c'est la question en impasse. La question, c'est, mais désire, Coco. Et si tu veux désirer, occupe la place où tu vas afficher comment toi-même tu te débrouilles de ta vie. Comment toi-même tu te débrouilles de ce que tu as reçu alors que tu ne demandais rien, ton ineffable et stupide existence. Et pas au nom d'une autorité autoritaire, au nom d'une autorité authentique. Comment tu te débrouilles avec ces choses impossibles ? et pas forcément au niveau d'un programme dont on sait très bien, mais comment tu vas faire ça? Et le coup de génie, à mon avis, du petit jeune, là, qui était très décidé, c'est-à-dire dès l'âge de je ne sais plus quel âge, il à son professeur de latin qui lui disait oh, « Vous savez, ça, c'est une citation que dans un truc », il savait très bien que ce n'était pas forcément vrai. Il revient chez lui, il vérifie. « Monsieur, je m'excuse, mais vous savez, ça a été aussi cité dans d'autres textes. » C'est pas n'importe quoi.
C'était une forme grammaticale qu'il avait trouvée.
Voilà. On ne présente pas avec la grammaire, comme dit Daniel Pénac dans Chagrin d'école. Il ne faut pas reculer devant la façon de parler des jeunes d'aujourd'hui. Il ne faut pas reculer devant la façon de parler de l'autre. Parce qu'effectivement, elle va prendre appui, comme Quéré, sur les émotions du peuple, et elle va parler le peuple. Effectivement, puisqu'elle est identifiée à la colère. Elle sut la jouissance. À l'état brut, c'est le cas de le dire. Mais là, il faudrait effectivement, après, tout le travail, d'où l'importance de Montaigne. Comment entrer en conversation avec tous ces gens, c'est-à-dire, au fond, ce qu'a très bien pigé. Lui, il est l'un tout seul, comme tu dis, mais ce n'est pas le même un tout seul que nous. C'est l'un tout seul. Non. Nous, c'est une série d'un tout seul qui entre en conversation. Et là, vous rentrez. Ne prenez plus appui sur des partis, parce qu'au fond, les partis sont partis. C'est ce que je veux dire. Il reste quelque chose de nouveau. On ne sait pas. Comme disait Rimbaud, c'est à inventer. Le nouvel amour va surgir.
Bon, merci beaucoup.
Et donc, c'est plutôt savoir y faire avec la haine. Parce que c'est quoi la haine, au fond ? C'est quand tu n'arrives pas à traduire en mots quelque chose de ton existence. Du coup, tu as la haine de la langue. Du coup, tu vas la provoquer, soit tu vas l'injurier, soit tu vas haïr celui qui est à côté de toi, alors que c'est toi-même que tu haïs. C'est-à-dire, tout le monde le sait. C'est l'étranger qui est en toi-même. Ça ne sert à rien de foutre dehors. Il va rentrer les fameuses frontières. Mais quelles frontières ? Pendant la guerre d'Espagne, on passait par le col d'Oskitch, là où passent les palombes. Les palombes, elles s'en foutent des frontières.
Alors, peut-être qu'il y a des palombes dans la salle qui voudraient Patrick Moribaud.
J'ai été très touché par ton texte que je trouve référencé, aussi délicat, puisqu'on ne peut pas parler de tout à moins de 48 heures d'une élection. Bon, tu as su faire avec ça. Alors que la tentation était grande de continuer les forums. Mais bon, on ne peut pas. J'aurais aimé revenir à une référence de Lacan que je ne suis pas sûr de saisir ou qui est restée pour moi une sorte d'énigme en chantier ouvert et que tu as amené tout à l'heure dans ton texte. L'inconscient, c'est la politique. Je ne sais pas si tout le monde ici pense avoir saisi ce que ça veut dire, l'inconscience et la politique. Alors, j'en avais attrapé une occurrence. Jacques-Alain Miller nous expliquait il n'y a pas si longtemps dans un cours que l'inconscient est une sorte de maladie mentale qui nous parasite, qui nous pourrit la vie, qui va peut-être pourrir notre vote dans l'urne. Et on vote à son insu, de son plein gré, avec... notre fantasme inconscient, etc., etc. Ça, j'ai bien compris que l'inconscient nous fait faire des bêtises politiques aussi. L'inconscient, c'est la politique. Mais j'ai dans l'idée que c'est là qu'une occurrence de cette phrase qui me paraît être à plusieurs entrées et je ne suis pas sûr d'avoir pu les déchiffrer, ces entrées-là.
Moi non plus, mais en tout cas, ce que tu illustres là, c'est plutôt, me semble-t-il, la politique, c'est l'inconscient.
Voilà.
C'est plutôt cette version de la phrase.
Politique, c'est l'inconscient.
Et que ça va plus loin que ça.
D'autre part, de quel inconscient, à ce moment-là, dans cette phrase-là, parle-t-on ? S'agit-il de l'inconscient transférentiel qui nous articule à l'autre ? Ou s'agit-il de l'inconscient réel qui plutôt nous en déconnecte dans une jouissance autiste et itérative du un et de son corps parlant ? Et donc, l'inconscient, c'est la politique, oui, mais l'inconscient transférentiel ou l'inconscient réel ? Je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que c'est une vraie question.
Moi non plus, mais je pense que dans la politique, il y a les deux dimensions. Et là, on l'a évoqué, derrière la désidéalisation, c'est effectivement le rapport à l'autre qui est coupé avec la montée d'une certaine forme d'autisme. Et c'est peut-être ça que ça veut dire... l'individualisme démocratique, Qui se développe après la Révolution. C'est-à-dire que le lien social est effectivement délité, qu'on constate aujourd'hui, à partir du moment où, bah, peut-être une autre manière de le dire pour Lacan, c'est la montée au zénith de l'objet A, au fond, et que ce qui est la politique aujourd'hui, après avoir été en effet du côté de l'idéal, c'est du côté de l'objet. Auquel cas, quelle politique ? Alors là, je n'ai pas développé, j'avais quelques hypothèses que j'avais intitulées notamment, mais peut-être j'en parlerai la prochaine fois puisque je reviens en septembre, vous allez en avoir marre. Peut-être je parlerai des addictions et ça sera l'occasion de parler de, de ces solutions qui sont peut-être, mais Philippe en a évoqué quelque chose à l'instant, d'une politique du par-l'être, une politique du symptôme qui se fonderait non plus sur l'idéal qui collectivise, mais sur la mise en série de un dont on promeut les solutions individuelles. Mais c'est peut-être de la science-fiction ou un idéal aussi.
Oui, à ce propos, moi j'aimerais te poser une question. Il me semble que ton texte, il pose aussi la question de l'usage actuel, enfin l'usage possible de la dialectique. Dans la mesure où tu parlais de l'appauvrissement de la langue, de la concrétisation de l'énonciation, il me semble que tu dis aussi, quelque part, à partir du désordre du symbolique, qu'on n'en est peut-être plus, en tout cas en politique, à l'usage de la dialectique. Et à ce titre-là, c'est aussi comme ça que j'ai compris quelque chose du destin funeste de l'humanisme intellectuel dont qu'évoquait Philippe Lacadée, qui serait justement peut-être un usage de la dialectique qui ne serait pas aux prises avec le corps. Et par rapport à ce que tu dis, il me semble qu'alors on peut comprendre l'inconscient, c'est la politique, comme l'inconscient. C'est ce qui permet, à un moment donné, enfin, c'est ce qui est au plus près de l'acte de parler, et donc plus de l'autre, plus de l'inconscient transférentiel, mais de l'inconscient réel, hein, et que c'est parler à partir de ce saut que je fais toujours quand je parle. Et au fond, est-ce qu'aujourd'hui la politique, c'est pas ça, la décision de prendre acte dans la langue? Est-ce que tu serais d'accord avec ça?
Oui. Je serais assez tenté de faire le parallèle entre la pratique analytique telle qu'elle a évolué, effectivement, et peut-être la politique aussi, à partir de ce que tu dis, c'est-à-dire que une pratique de coupure et non plus une pratique explicative, interprétative, donc une pratique politique aussi qui soit à la mesure de ce qu'on a font dégager là comme deux points importants, qui sont d'une part la haine, et d'autre part, ne pas comprimer l'objet A. À partir de ces... C'est peut-être, Jacques Alain Miller disait hier, on a vu que les politiques tout seuls ne s'en sortaient pas, et bien peut-être qu'il faut leur tenir un peu la main. Et bien c'est peut-être sur ces deux points-là qu'on peut leur tenir la main. C'est-à-dire que leur transmettre qu'il y a des limites à ne pas dépasser, il y a des choses impossibles et qu'il faut en tenir compte. Sans quoi on fait des catastrophes. Et c'est la guerre.
Dans son entretien dans la revue Cité, là, il dit qu'il faut défriser les militants. Défriser les militants. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais, c'est que tu, pour reprendre un peu aussi ce que disaient Patrick et Marie-Laurent, c'est qu'au fond, le discours du maître et le discours de l'inconscient ont la même structure. Et c'est... Dans ce que tu as amené, c'est à partir de cette phrase « L'inconscient, c'est le politique », je crois que c'est dans la logique du fantasme, je crois. Et après, avec les quatre discours, il met en évidence le discours du maître, qui a la même, au fond, structure que le discours de l'inconscient. Mais après, c'est toute la place, pour ceux qui ont en figure, en schéma, les discours, la question, c'est la place de l'objectita, qui, au fond, est quelque chose qui, dans le discours courant ou dans le discours lorsqu'on parle, c'est-à-dire lorsqu'on consent ce qu'on fait tous, à se ranger sous un signifiant maître, à ce moment-là, pour avoir quelque chose comme effet subjectif, mais qui ne dira pas tout parce qu'il y aura toujours un reste, on s'articule à l'autre, un autre qui est au fond porteur d'un certain savoir. Moi, par exemple, je me suis beaucoup aperçu que les adolescents d'aujourd'hui, j'appelle ça d'ailleurs, la crise de la langue articulée à l'autre. C'est-à-dire comme s'il y avait quelque chose dont ils tirent une certaine certitude, une position au fond de l'un tout seul. Au fond, je dis tout ce que je pense, je le dis de suite. Et au fond, c'est le refoulement n'est plus à la même place. Du coup, je me retrouve, soit peut-être même avec plus d'inconscient, c'est peut-être pour ça que dans les CPCT, on leur apprend peut-être à les éduquer à ce qu'au fond, il y a un inconscient, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout dire, on refoule, mais c'est quand même mieux quand on refoule, non ? Parce que sinon, on ne refoule pas, et puis ça peut apparaître sur la scène publique. Et c'est ça qui est dangereux. Comment, à partir de ce moment-là, pouvons-nous redonner toute sa dignité à la fois au discours du maître, c'est-à-dire collaborer avec le maître, parce que nous, on sait, lacanien, à partir de la clinique de l'impossible, c'est-à-dire du réel, que le réel existe. Et qu'on aura beau faire tout programme, il y aura toujours ce truc que Zweig ne supportait pas chez Freud, et c'est pour ça qu'il dit, mais il est terrible ce type, il est insupportable, il est traité de tout. Il a même comparé à Amok, à un moment donné. Et il pensait qu'au fond, le nazisme, c'était comme Amok, ça allait disparaître. Et l'autre lui disait, non, pas du tout, l'être humain est comme ça, il est bestial. C'est pour ça qu'il faut savoir y faire avec la bête en l'autre. Alors que Zweig, c'était le spécialiste quand même de la bête en l'autre. Il n'arrêtait pas de sortir des revues, des nouvelles qui faisaient peur à tout le monde. Mais il ne voulait rien savoir pour lui-même.
C'est ça.
Il a beau aller dans toutes les langues, à chaque fois, il... Alors le truc le plus terrible, trouver une femme qui acceptera de mourir avec moi. Ça, c'est quand même... Et se suicider ensemble. Ça, c'est quand même le nec plus ultra.
Merci à vous. Merci à Pierre Sidon.